Nous allons lire dans Exode. L'Éternel dit à Moïse.
Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. »
L'Éternel dit à Moïse.
Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation.
Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit.
Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance, avec force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. »
L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp !» Moïse répondit,
« Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. »
En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron,
que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché?
Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit
« Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi !»
Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça
« Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain et son voisin. »
Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3 000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit,
« Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. »
Le lendemain, Moïse dit au peuple,
« Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. »
Moïse retourna vers l'Éternel et dit,
« Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. »
L'Éternel dit à Moïse,
« C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que j'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. »
L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Moïse dit à l'Éternel,
« Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, Je te connaîtrai et je pourrai trouver encore grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. »
L'Éternel répondit,
« Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. »
Moïse lui dit,
« Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?»
L'Éternel dit à Moïse,
« Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et que je te connais par ton nom. »
Moïse dit,
« Fais-moi donc voir ta gloire. »
L'Éternel répondit,
« Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. »
Il ajouta,
« Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. »
L'Éternel dit,
« Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. »
Bonjour à tous. Donc, merci pour cette lecture à plusieurs voix qui était vraiment bien conduite et qui permettait d'entendre vraiment cette discussion entre Moïse et Dieu. Moïse discute, Moïse dispute, discuter, disputer. Hein, la langue a évolué dans l'évolution de la langue. On voit que le rapprochement qu'il y a entre ces deux termes, discuter, disputer, il y a de la controverse là-dedans. Et ce qui est, d'abord, c'est un épisode célèbre, l'épisode du veau d'or. Je crois que tout le monde le connaît, même les agnostiques, même les athées. Hein. C'est un épisode très connu parce que c'est l'épisode de l'idolâtrie. Et en même temps, ce qui est très connu, c'est cette prière d'intercession de Moïse, une prière dans laquelle Moïse doit gagner un combat. Il y a un combat à remporter et on va voir comment Moïse s'y prend parce que je crois que nous avons beaucoup à apprendre de la façon dont il s'y est pris là. Alors, je vais vous donner mon plan. Alors, j'ai intitulé cet exposé « Un colloque sur la montagne ». Un colloque, hein, c'est pas seulement une réunion avec plusieurs personnes. Un colloque, c'est un entretien entre deux personnes. Et nous nous demanderons donc dans quelle mesure les entretiens de Moïse avec l'Éternel sur la montagne laissent-ils entendre un modèle de prière d'intercession. Premièrement, je parlerai du contexte. Je vais resituer, vous donner quelques éléments d'information pour mieux comprendre cet épisode du péché d'idolâtrie. Et ensuite, nous pourrons voir qu'il y a dans cet épisode une véritable galerie de portraits. On va avoir Dieu en personne qui sera là. Il va y avoir évidemment Moïse, mais aussi Aaron. On s'arrêtera pas mal sur la personnalité d'Aaron. Et Josué qui, si j'ose dire, montre le bout de son nez déjà ici. Et on sait qu'il sera le successeur de Moïse. Ensuite, nous analyserons l'argumentation de Moïse. Comment va-t-il s'y prendre? Et on va voir que finalement, Moïse, c'est un rhéteur, quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la rhétorique d'une certaine manière, hein, puisqu'on va voir qu'il est aussi bien il est capable de convaincre comme de persuader, et nous analyserons la différence entre ces deux attitudes. Et enfin, nous conclurons sur cette prière d'intercession et nous verrons ce que nous pouvons en retirer pour nous-mêmes. Allez, on y va. Donc Moïse est sur la montagne et nous le savons, le peuple s'impatiente. Moïse a l'habitude de monter sur la montagne. Il est plus souvent sur la montagne que sur terre parce qu'il s'entretient avec son Dieu. On peut dire que Moïse est vraiment le serviteur céleste, celui qui est souvent dans le ciel, sur la montagne, plus proche du ciel et plus proche de son Seigneur. Donc il est sur la montagne et le peuple s'impatiente. Il est arrivé au mont Sinaï, je reviendrai tout à l'heure. Hein, et alors que peu de temps auparavant, lors de la conclusion de l'Alliance, le peuple jurait d'obéir à Dieu, voici que le peuple se rassemble autour d'Aaron et lui dit, Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est arrivé de lui. Alors, c'est dans les livres de l'Exode et du Deutéronome que l'épisode du veau d'or est relaté. De façon précise et détaillée, dans les chapitres 32 à 34 que nous venons de lire, c'est là qu'il est développé. Ce livre, qui succède à la Genèse, relate d'abord la situation d'oppression vécue par le peuple d'Israël en Égypte, autant dire son esclavage, puis la naissance de Moïse et sa vocation. S'ensuit ensuite le récit des 10 plaies d'Égypte, ça aussi c'est très connu, c'est célèbre, hein, les 10 plaies d'Égypte, puis l'ouverture du passage dans la mer des roseaux, autant de récits que nous connaissons tous. Mais ce livre de l'Exode, c'est un livre fondateur, dans la mesure où il met l'accent sur la volonté de l'Éternel d'être auprès des Israélites et d'entretenir avec eux une relation vivante. Et nous allons voir justement comment elle se concrétise dans cette intercession de Moïse. En même temps, ce livre souligne la sainteté divine et la distance qui en résulte entre Israël et son Dieu. À présent, arrêtons-nous sur l'image d'un peuple qui, chargé des biens de ses oppresseurs, les Égyptiens, est en route vers le mont Sinaï pour y rencontrer Yahvé. Car c'est là, au mont Sinaï, que l'Éternel attend son peuple pour sceller son alliance avec lui. C'est un moment très important, solennel. C'est un moment un peu effrayant aussi, parce que le peuple a vécu en Égypte et les Égyptiens adorent des représentations de leur Dieu. Et eux, ils adorent un Dieu qu'ils ne voient pas. Donc, ils ont rendez-vous avec lui au mont Sinaï. Un moment important et solennel. Car c'est l'occasion pour les Israélites de faire plus amplement connaissance avec ce Dieu qui les a fait sortir du pays où ils étaient esclaves, qui les a nourris et qui a pris soin d'eux durant leur marche dans le désert jusqu'à ce lieu de rendez-vous. Mais voilà, ce peuple d'environ 2 millions de personnes qui habitait parmi les païens durant plusieurs siècles doit renouveler sa relation avec le divin, laquelle a probablement souffert d'un certain syncrétisme, un certain mélange, hein, de l'adoration des païens et de celle qui est propre au peuple d'Israël. Et comme va en témoigner d'ailleurs la fabrication du veau d'or. Adorer un Dieu qu'ils ne peuvent voir ni même approcher, c'est probablement un mode de relation qu'ils ont du mal à intégrer. Au mont Sinaï est conclue l'alliance avec l'énoncé du Décalogue et avec ses premiers commandements. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel ou ici-bas sur la terre. Donc, Dieu scelle au mont Sinaï son alliance avec le peuple d'Israël. Cependant, le but visé par cette alliance, c'est avant tout l'habitation de l'Éternel au milieu de son peuple dans le tabernacle. Dieu veut habiter parmi son peuple, il veut être avec lui, et ceci de façon permanente. Mais voilà que le déroulement des opérations est interrompu par la faute du veau d'or qui compromet tout le projet visé par l'Alliance. L'Éternel menace de retirer au peuple sa présence et il faudra que Moïse intercède pour que Dieu conserve quand même sa présence à Israël et consente à l'accompagner dans le pays promis. Alors, la bataille est de taille, car Dieu est très en colère, et nous allons le voir tout à l'heure. Venons-en plus précisément à l'épisode qui nous intéresse. Arrivé au mont Sinaï, Moïse est appelé plusieurs fois sur la montagne pour entendre les ordonnances de l'Alliance. Il effectue plusieurs allers-retours entre le camp et la montagne pour s'entretenir avec Dieu, recevoir ses instructions et les transmettre au peuple. Cependant, quand il remonte une dernière fois pour recevoir les deux tablettes de l'acte de l'Alliance, cela prend un peu plus de temps que prévu. Alors, je vous propose d'analyser cet épisode du veau d'or en nous intéressant aux petits détails qui vont nous permettre de dégager la psychologie des personnages. Je trouve ça particulièrement intéressant de toujours dégager à partir de l'attitude et des paroles des personnes, de dégager leur caractère, ce qu'on appelle la psychologie des personnages. Hein. leur personnalité, nos paroles, nos attitudes dévoilent notre personnalité ou encore l'état d'esprit qui nous habite. Et cet épisode est particulièrement intéressant car il offre une galerie de portraits de personnes imminentes, puisque nous avons Dieu, Moïse et Aaron en personne. Alors, on va aborder cette galerie de portraits et pour chaque personnage, nous allons essayer de dégager les traits qui les caractérisent à travers les différents livres de la Bible, sans être exhaustif, bien évidemment. Puis ensuite, nous les confronterons à ceux que nous révèle tout particulièrement l'épisode du veau d'or dans cet extrait. Mais commençons par Dieu lui-même. Dieu, on pourrait dire que Dieu est présent en personne. Alors comment est-il caractérisé dans la parole? Quels sont ses attributs? Et dans quelle mesure l'épisode du veau d'or nous enseigne-t-il sur la relation de Dieu avec son peuple? Alors dans la Bible, Dieu présente deux types de caractéristiques. Il apparaît surhumain la plupart du temps. C'est un Dieu qui fait des miracles, des prodiges. Et on va voir aussi qu'il apparaît sous un autre aspect. Mais abordons d'abord les caractéristiques surhumaines. Certes, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Rythme ternaire, c'est facile à retenir. De ce fait, il est à la fois majestueux et redoutable. Majestueux parce qu'il accomplit des actes extraordinaires. Il a englouti les chars de Pharaon dans la mer des roseaux pour sauver son peuple et donc il a écarté les eaux de la mer des roseaux. En même temps, il est redoutable. En effet, quand Dieu descend sur le mont Sinaï pour donner la charte de l'Alliance, le texte dit que toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du cor allait en s'amplifiant. Moïse parla et Dieu lui répondit dans le tonnerre. À ce spectacle, le peuple trembla de peur. Et c'est ainsi que Moïse n'en devint que davantage l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il était déjà, mais cette fois-ci, ce sera officialisé. Donc Dieu est redoutable par sa puissance. Il est également parfait en toutes choses. Et en cela, il nous insuffle le goût et la soif de l'excellence, si je puis m'exprimer ainsi. Être semblable à Jésus, être semblable à Dieu, c'est pour nous mettre la barre très haut. Et on sait que nous avons affaire à un Dieu qui est exigeant. Alors, Dieu est parfait d'abord par son caractère immuable. Il est un Dieu fidèle à sa parole et à son alliance, comme nous allons le voir. Il ne change pas. Souvenons-nous de l'oracle de Balaam, quand Balak, roi de Moab, demande à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Alors que Balak voulait peut-être bien faire la volonté de Balaam, voilà que l'oracle, par sa bouche, s'adresse à Balak, le roi de Moab, et il dit « Balak, prête-moi attention, répondit l'oracle, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. » Donc Dieu est immuable et en cela, il n'est pas comparable aux hommes, à nous-mêmes. Ensuite, l'excellence du caractère de Dieu se manifeste au travers de sa bienveillance. En effet, il pardonne à celui qui se repent. Et ça, c'est dans l'histoire des religions, je crois qu'on peut dire que c'est peut-être bien le seul Dieu qui apporte cette notion de pardon. Et c'est bien parce que nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu qui sont parfaits et qui nous dépassent en intelligence, que parfois nous l'accusons à tort ou que nous nous rebellons. Passons maintenant aux caractéristiques humaines. À ces caractéristiques surhumaines et qui révèlent la perfection de Dieu, se présentent aussi des qualités que nous connaissons parfois bien, tant elles nous caractérisent nous-mêmes. Oui, Dieu est pourvu de traits de caractère très humains et nous pouvons en faire l'inventaire et en énumérer quelques-unes qualités. On remarque que quand Dieu crée l'homme, la femme dans la Genèse, on remarque qu'il œuvre et que le septième jour, il se repose. Tiens donc, Dieu qui est tout puissant a besoin de se reposer après son ouvrage. Il nous ressemble en cela. Il ressent de la peine. Dieu a du chagrin. Mais oui, Dieu a du chagrin. On le voit au chapitre 6 de la Genèse, avant le déluge, face à la corruption de l'humanité, la parole nous dit que l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. Dieu a un cœur et il est capable d'être affligé, d'être blessé aussi. Hein, on va le voir tout à l'heure. Dieu aime, évidemment ça nous le savons tous, mais il peut aimer d'un amour humain aussi. Hein. Dieu ressent un sentiment d'amour qui est humain. Hein. Alors, en Exode 34, 6, hein, on n'a pas lu cet extrait-là, mais moi je vais lire ce verset. L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère et riche en amour et en fidélité. Et Dieu est aussi un Dieu exclusif qui connaît l'amour de façon humaine dans la mesure où il connaît la jalousie. Hein. Il est un Dieu jaloux, il le dit. Hein. Moi, je suis un Dieu jaloux qui ne tolère pas de rival. Enfin, dans les psaumes, nous pouvons lire que Dieu ressent de la haine pour le mal. Donc Dieu connaît la haine aussi. Il connaît l'amour, il connaît la haine. Et j'ai envie de dire, Dieu, oh Dieu, que tout cela est bien humain, hein, et combien cela est caractéristique de nous-mêmes aussi. Hein. Et nous pouvons même lire hein, que Dieu se moque de ses ennemis en riant de leur stratagème dans les psaumes, dans le psaume 2, 4. Bref, Dieu connaît la tristesse, le chagrin, l'amour, la haine, la jalousie, et ce sont là autant de caractéristiques qui relèvent des émotions humaines. Force est de constater que nous sommes face à un Dieu qui éprouve des sentiments semblables aux nôtres. Rien d'étonnant cependant, s'il nous a créés à son image, il y a donc en lui une part de nous-mêmes, une part humaine. Et c'est ce visage humain qui lui permet, justement ce visage humain qui lui permet d'entretenir une relation vivante avec nous. Mais alors, qu'en est-il de l'attitude de Dieu lors de la faute du veau d'or? Dieu connaît son peuple. Il est omniscient. D'une part, il est omniscient, et puis d'autre part, il connaît son peuple par expérience. Le peuple a déjà marché dans le désert, hein, et il a eu l'occasion de révéler son attitude ingrate et incrédule. Et cela dès ses premiers pas dans le désert. Souvenons-nous de l'épisode des eaux de Marah ou encore de celui des cailles. Les Israélites ne cessent de se plaindre, c'est bien connu. En fait, ils ont la nostalgie du temps où ils vivaient en Égypte. Souvent, ils disent en Égypte, nous avons ceci, à présent, nous ne l'avons plus. Hein. Tu nous as emmenés dans le désert pour nous faire mourir, etc. On pourrait dire, vu de loin comme ça, qu'ils sont odieux. Mais cependant, ils nous ressemblent tellement. Donc le texte nous rapporte, dans l'épisode du veau d'or, comment la colère de Dieu s'enflamma. Et c'est, j'ai presque envie de dire, une colère humaine, hein, une colère qui ressemble à celle que nous pourrions avoir. Ce sont souvent nos blessures, à nous, êtres humains, qui sont à l'origine de nos colères. Et nous pouvons penser que c'est le cas ici pour Dieu également. Oui, nous pouvons envisager que Dieu est blessé car il a fondé des espoirs sur ce peuple. Il a construit un avenir pour lui. Il s'est montré bienveillant lors de la sortie d'Égypte. Il a pris soin de ce peuple dans le désert et il a prononcé la charte de l'Alliance. Et ce peuple avait promis à plusieurs reprises de lui obéir. Alors il semble bien qu'ici, Dieu éprouve une émotion tout à fait humaine. Une colère suite à la blessure que suscite le rejet du peuple. Car le peuple est en train de le rejeter. C'est très dur ce que fait le peuple. On l'a pas lu hein, avant et le texte était déjà très long. Mais ils vont dire à Moïse, hein, fais-nous un Dieu hein, et ce sera le Dieu qui nous a conduits hors d'Égypte. Or, on sait très bien que ce n'est pas le veau d'or qui les a conduits hors d'Égypte. Hein. Donc c'est une colère suite à la blessure que suscite le rejet du peuple qui s'était choisi. Aussi son alliance avec le peuple élu est remise en question. Et il va proposer à Moïse de détruire Israël et de sortir de lui un peuple nouveau. Il va dire à Moïse, je vais détruire Israël et de toi je ferai naître un nouveau peuple. Alors avant de voir la réaction de Moïse, intéressons-nous un petit peu à Aaron. Aaron, c'est l'homme par qui le péché arriva. C'est un homme sous influence. Nous le savons, il appartient à la tribu de Lévi, choisi par Dieu pour servir la prêtrise. Et Aaron sera malgré tout, consacré grand prêtre d'Israël. Cependant, il semble bien qu'au mont Sinaï, il ait perdu la force qui vient de Dieu. Sous sa direction, le peuple est tombé dans l'idolâtrie et la débauche. Le texte dit « Moïse vit que le peuple était en plein désordre ». Incontestablement, Aaron s'est laissé tenter par le peuple et contrairement à Moïse, son frère, il n'a pas cette autorité qui vient de Dieu pour être entendu par ce peuple réfractaire. De toute évidence, il ne partage pas avec Dieu des moments d'intimité comme Moïse peut le faire. Moïse est ce serviteur céleste qui passe beaucoup de temps sur la montagne pour échanger avec son Dieu. Aaron reste à terre. Nous pouvons relever ici la portée symbolique de la montagne. On sait que Jésus aussi se retirait sur les hauteurs pour vivre des moments d'intimité avec son Père. En fait, c'est Josué, l'assistant de Moïse, qui passe le plus de temps sur la montagne avec Moïse. Et nous savons que Dieu lui confiera la succession de son serviteur Moïse. Examinons l'attitude d'Aaron. Aaron et tout le peuple ont connaissance des premiers commandements de Dieu. Ils leur ont été révélés lors de la rencontre au pied du mont Sinaï. L'attitude d'Aaron, qui ne conteste pas un seul instant la demande du peuple, est d'autant plus surprenante puisqu'il fait partie de l'équipe des responsables à laquelle Moïse a confié les Israélites. Avant de monter sur la montagne pour recevoir les tablettes de la loi, Moïse a confié les Israélites à Aaron, et on pourrait s'attendre à ce qu'il montre une certaine opposition quand on vient lui demander de fabriquer un veau d'or. Or, d'emblée, il satisfait leur demande. Et puis, ce n'est pas tout. Nous pouvons observer ensuite, quand Moïse fait des reproches à Aaron, sa réaction est tout aussi surprenante. Il ne va pas se repentir, il ne se repent pas, il rejette la faute sur le peuple. Il dit, tu sais toi-même, Moïse, que ce peuple est porté au mal. Donc il n'a pas conscience de la responsabilité qui lui incombe. D'autre part, si Aaron redoute la colère de son frère Moïse, en revanche, donc, il n'a pas conscience de la double responsabilité qui lui incombe. En effet, le peuple n'a pas seulement adoré un autre Dieu, commis une infidélité envers Yahvé. Le peuple s'est aussi abandonné à ses pulsions les plus viles. Il a sombré dans la débauche et l'immoralité. Et Aaron n'était point intervenu. Il les a vraiment laissés se déchaîner. D'ailleurs, c'est le terme qui est employé dans la version en français courant. Je relis ce passage. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Et dans la version en français courant, on peut lire « Moïse vit que le peuple était déchaîné ». Comment expliquer l'attitude d'Aaron? Certes, ce Dieu d'Israël est un Dieu invisible. Lui semblait-il inaccessible, difficile à approcher? Mais cherchait-il à le connaître vraiment? Quel temps passait-il dans l'intimité avec ce Dieu auquel Israël s'attendait quand il était encore esclave? D'ailleurs, avait-il visiblement fait de Yahvé son Dieu personnel, comme son frère Moïse? Moïse, on a pu lire dans le texte, Moïse supplia l'Éternel, son Dieu. Il s'avère que, sans proximité avec ce Dieu, Aaron demeure sans force pour résister à la tentation, et qui plus est pour faire preuve d'autorité auprès d'un peuple rebelle. Cependant, l'attitude d'Aaron est aussi révélatrice de son état d'esprit, de l'esprit qu'il habite. Par son acte, il témoigne de son attachement à la culture païenne. En fait, il reste pétri des images et des codes religieux du peuple égyptien. En effet, le dieu Apis était un bœuf sacré en Égypte. Selon la légende, la mère d'Apis avait été fécondée par un éclair et avec son veau sacré, tiens le veau, elle faisait l'objet d'une vénération, d'un véritable culte. De toute évidence, Aaron n'était pas délivré de ces représentations divines que lui avaient inspirées les cultes égyptiens. Probablement était-il encore trop attaché à la terre d'Égypte, à sa culture, à ses coutumes et ses pratiques pour pouvoir résister et ne pas céder à la demande du peuple. Ainsi, en l'absence de proximité, d'intimité avec Yahvé, ce nouveau Dieu, pourrait-on dire, Aaron demeure sans force pour assumer la tâche que Moïse lui a confiée avant de monter sur la montagne. Le texte nous dit que Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et qu'il gravit la montagne de Dieu après avoir dit aux responsables d'Israël « attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à Aaron. » Effectivement, ils ont eu un problème à régler et Aaron n'a pas su répondre. Alors, quelles sont les conséquences pour Aaron? Il a commis une faute grave, un péché grave. L'expression revient plusieurs fois dans le passage, peut-être pas dans le passage qui a été lu, je ne sais plus, mais l'expression « un péché grave » revient très souvent. Et effectivement, c'est une infamie, ce veau d'or. Au chapitre 9 du livre du Deutéronome, c'est un livre qui s'apparente aux mémoires des grands hommes, si on y réfléchit un petit peu, les mémoires des grands hommes au soir de leur vie, quand la mort approche, Moïse rédige ses mémoires pour être en vie, et il se souvient de toutes les pérégrinations dans le désert, et il évoque à nouveau évidemment l'épisode du veau d'or. Et voici ce qu'il écrit. « Je redoutais cette colère, cette fureur dont l'Éternel était animé contre vous, au point de vouloir vous détruire. Mais cette fois encore, l'Éternel m'exauça. Il était aussi très irrité contre Aaron, au point de vouloir le détruire, et j'ai prié pour Aaron. » Sans la prière de Moïse, Aaron n'aurait pas subsisté à l'épisode du veau d'or. Ainsi faut-il entendre que sans l'intervention de Moïse, Dieu aurait fait mourir Aaron. L'intervention de Moïse, ce n'est rien moins qu'une prière d'intercession. Mais la prière d'intercession de Moïse, en quoi consistait-elle alors, s'il y a eu une puissance capable d'interrompre, d'arrêter la colère dévastatrice de Dieu? Alors poursuivons avec la personne de Moïse. Moïse, il apparaît vraiment tel un être d'exception, un serviteur céleste. On est vraiment impressionné quand on lit et relit ce passage pour l'étudier. Alors, que nous révèle cet épisode sur sa personnalité? Déjà, nous apprenons qu'il passe le plus clair de son temps, je l'ai déjà dit, il passe le plus clair de son temps auprès de Dieu sur la montagne, plus près du ciel et de son Dieu. Il séjournera plusieurs fois 40 jours sans boire et sans manger. Nous apprenons aussi qu'il est l'ami intime de Dieu, contrairement au peuple et à Aaron. L'Éternel est son Dieu. J'ai déjà dit tout à l'heure, on peut relever ici dans le texte l'emploi du déterminant possessif « son » qui traduit l'expression d'un Dieu personnel. Ainsi, comme nous pouvons le lire, l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle à son ami. Donc, il est l'ami de Dieu et Dieu est son Dieu personnel. Songeons un peu à cette relation qu'il y a entre lui et l'Éternel. Après le péché grave d'idolâtrie et l'humiliation que présente ce veau d'or pour l'Éternel, on va voir que Moïse œuvre pour la gloire de son Dieu. Parce qu'il est rempli d'une force spirituelle qui lui confère de l'autorité sur le peuple, contrairement à Aaron, il brûle au feu le veau d'or et contraint ce peuple à boire le breuvage qui contient la poudre qu'il en a extrait. Et celui-ci, le peuple, cette fois-ci ne conteste pas, on pourrait même dire de façon visuelle, il ne bronche pas, il accepte ce châtiment. Mais c'est ainsi que Moïse défend l'honneur bafoué de son Dieu. Et puis, on va voir que Moïse œuvre encore pour la gloire de Dieu d'une autre manière. Quand il se pose à l'entrée du camp et demande au peuple de se déclarer pour Dieu, il tente de faire réagir les Israélites qui ne mesurent pas la gravité de leur acte. Mais là aussi, on pourra voir que seuls les Lévites répondront à l'appel. Dans un contexte d'idolâtrie et de péché aussi, aussi grave, aussi infâme, il est important de rétablir Dieu sur son trône d'une certaine manière. Et Moïse va demander qu'on se déclare publiquement pour l'Éternel, pour Yahvé. Et on sait que ce jour-là, 3000 hommes vont mourir et que certains vont tuer leurs frères, leurs amis. Et Moïse dira, vous en recevrez la bénédiction de Dieu par cet acte-là. Ça peut paraître un acte cruel. Certes, Moïse aime son Dieu, Mais il aime aussi son peuple. Il aime le peuple que Dieu lui a confié. Et s'il veut rétablir l'honneur de Dieu, il veut aussi sauver son peuple. En effet, on peut remarquer déjà le caractère désintéressé de Moïse. Vous vous souvenez de la proposition que Dieu fait à Moïse? Hein, il lui dit, je vais détruire ce peuple et de toi, je ferai sortir une grande nation. Ce n'est pas la prière qu'il a faite à Abraham. Hein. Mais là, Moïse pourrait être tenté. Et on va voir que Moïse ne cherche pas son propre intérêt. Parce que quand Dieu, justement, lui propose de détruire Israël et de sortir de lui un peuple nouveau, Moïse refuse. Dieu lui dit, maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Ce pourrait être une véritable tentation pour Moïse, qui, contrairement à Aaron, ne se laisse pas tenter. Car ce n'est pas sa propre gloire qui le préoccupe, mais c'est la gloire de Dieu qui préoccupe Moïse, comme nous allons le voir encore plus loin. Et en cela, son attitude s'inscrit parfaitement dans l'amour, tel que Paul le définira plus tard en 1 Corinthiens 13. Vous connaissez tous hein, ce passage de l'Épître aux Corinthiens où Dieu définit ce qu'est l'amour. Hein. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour est patient, etc. Il y a toute une énumération et parmi les énumérations, il y a « l'amour ne cherche pas son propre intérêt ». Et on peut dire que l'amour de Moïse pour son peuple, c'est un amour véritable. C'est un amour divin, parce que Moïse, là, n'a pas cédé à la tentation de faire sortir de lui un peuple nouveau. Ce n'est pas sa propre gloire qui l'intéresse, c'est la gloire de Dieu. Et puis enfin, Moïse donne sa vie pour son peuple. Hein. Quand il veut obtenir le pardon de Dieu pour Israël, il dit à l'Éternel, « Mais maintenant, efface le péché de mon peuple. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » C'est fort quand même, hein. Il préfère mourir, hein, être effacé, mourir spirituellement, être effacé du grand livre de Dieu, hein, plutôt que de voir son peuple disparaître. Il y a un autre passage dans la Bible où un apôtre va faire cette même prière. L'apôtre Paul a une attitude semblable quand il a écrit dans la lettre aux Romains, « Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, nés du même peuple que moi. » Bien, par ses qualités, Moïse apparaît bien comme une préfiguration de Jésus, le Messie à venir. Hein. Il a l'amour de Christ, il ne cherche pas sa gloire, il ne cherche pas son intérêt, il donne sa vie pour son peuple, mais il n'aime pas d'un amour mièvre. Hein. Moïse a quand même ordonné l'exécution de certains Israélites dans le camp, puisque 3 000 personnes ont trouvé la mort le jour où la colère de Moïse s'enflamme. Dans le Nouveau Testament, Moïse est mentionné encore plusieurs fois, relevons deux passages. Moïse apparaît comme le serviteur fidèle. Dans la lettre aux Hébreux, Paul compare la fidélité de Moïse envers Dieu à celle de Jésus envers son Père. Et Moïse apparaît aussi, toujours dans la lettre aux Hébreux, comme un exemple de foi vivante. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. C'est ce qu'on peut lire en Hébreux au chapitre 11, les versets 24-28. Bien, analysons à présent l'intercession de Moïse. Comment va-t-il s'y prendre pour détourner Dieu de sa colère? Et c'eût été une colère dévastatrice, très probablement. Alors Moïse, on va s'apercevoir qu'il fait preuve à la fois de conviction et de persuasion. Dans la prière d'intercession de Moïse, il y a tout un art de convaincre. On pourrait relire les premiers versets de l'extrait, je pense que je vais le faire. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Alors voici la première réplique de Moïse que nous allons analyser parce que dans cette réplique à l'Éternel, il y a trois arguments et nous allons les distinguer. Et ce sont trois arguments qui font appel à un raisonnement logique. Moïse va s'appuyer tout simplement sur la logique des paroles de Dieu. Il va montrer à Dieu qu'il n'est pas en accord avec que détruire ce peuple, c'est en décalage avec tout ce qu'il a dit qu'il était et tout ce qu'il a pu faire précédemment. Le premier argument consiste à rappeler la puissance que Dieu a déployée pour sauver son peuple. Il évoque ainsi la valeur de ce peuple pour Dieu. Il montre combien ce peuple était important pour lui. S'il a mis en place les 10 plaies d'Égypte, s'il a écarté les eaux de la mer des roseaux, c'était bien parce que ce peuple avait du prix à ses yeux. Et Moïse le lui rappelle. Et si ce peuple avait tant de prix à ses yeux, l'exterminer aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est insensé. Aussi, il déclarait, pourquoi Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Et il dit ton peuple, il emploie ce déterminant possessif. Et bon, on n'a pas le temps de tout analyser, mais si on regarde bien plus tard, l'Éternel ne dira plus mon peuple. Il va dire ce peuple, ou alors il dira à Moïse, c'est ton peuple. Mais il ne dira plus mon peuple. Ça, c'est très intéressant d'étudier les pronoms personnels. Mais bon, on ne peut pas être exhaustif et tout faire. Mais je le signale au passage quand même. Mais ce déterminant possessif, Moïse ne va pas cesser de dire « ton peuple » dans cette controverse avec Dieu pour lui rappeler que c'est le sien et que ce n'est pas devenu le peuple de Moïse parce que c'est Moïse l'homme qui l'a conduit hors du désert. Si Moïse a pu conduire le peuple hors du désert, c'est parce que Dieu lui-même a déployé sa puissance. Ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument consiste à rappeler la réputation, la renommée de Dieu auprès des peuples païens. Pourquoi les Égyptiens diraient, alors on va voir un discours direct, il va même faire entendre les paroles des Égyptiens. En fait, c'est une prosopopée quand on fait intervenir les absents. C'est un procédé rhétorique, Moïse est savant. Il va rappeler la renommée de Dieu auprès des peuples païens. Dieu souffrirait-il que les Égyptiens se méprennent sur ses intentions et qu'aux yeux des autres peuples, il apparaisse tel un dieu malveillant et insensé qui use de sa puissance pour détruire ses enfants, ceux-là même qu'il a délivré de l'esclavage? Cela paraîtrait tout à fait monstrueux. Il apparaîtrait comme un dieu monstrueux et insensé, et donc dépourvu de toute logique aussi. Non, ça ne colle pas avec Dieu. Dieu ne peut pas faire cela. Il a une réputation à tenir, il a sa renommée auprès de tous les peuples de la terre et détruire le peuple d'Israël, ce n'est pas possible en fait. Sur le plan de la raison, ce n'est pas possible. Donc ici, c'est l'honneur et la gloire de Dieu que Moïse veut sauver en même temps que son peuple. Enfin, le troisième argument rappelle le caractère immuable de Dieu. Dieu le dit, je ne mens pas, je ne suis pas humain, etc. J'ai cité tout à l'heure l'oracle de Balak. Dieu ne peut pas mentir. Et Moïse le rappelle. Il rappelle la promesse faite à Abraham, Isaac et Israël. Quand Dieu a dit, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Ainsi, Moïse a énoncé là, trois arguments imparables. Dieu ne répond rien. Et on peut dire qu'il remporte une première victoire. Le texte dit, l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est véritablement une première victoire. Cependant, si l'Éternel renonce à détruire Israël, il n'a pas pour autant pardonné à ce peuple réfractaire son péché d'idolâtrie. En effet, on va voir qu'il renonce à marcher lui-même devant son peuple pour le conduire dans le pays qu'il a promis de lui donner. Pour ce faire, il dit qu'il enverra son ange. Il enverra son ange. Mais Moïse n'est pas satisfait avec cette nouvelle façon de conduire le peuple. Et il va devoir à nouveau user de conviction. Il va devoir à nouveau intercéder auprès de Dieu. Et ce qu'il va lui demander maintenant, c'est de pardonner le péché du peuple et de se réconcilier avec son peuple et de ne plus dire Moïse, c'est ton peuple, mais qu'il puisse enfin dire mon peuple, ce qui ne se fera pas hein, à la fin de notre extrait, en tout cas. Donc Moïse veut que Dieu pardonne, se réconcilie avec son peuple, et se réconcilier avec son peuple, ça veut dire marcher avec lui à ses côtés et non pas envoyer un ange. Donc il s'agit à présent pour Moïse de prononcer des paroles qui vont toucher le cœur de Dieu, qui vont atteindre sa sensibilité. Après avoir agi sur l'intellect, la part d'intelligence humaine de l'Éternel, Moïse va jouer sur la corde sensible des sentiments, sur la corde sensible de son Dieu. Il va discuter avec Dieu d'une façon très sentimentale, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Il va rappeler leur proximité, le caractère intime de leur relation. En effet, il dit à Dieu, tu me connais, tu m'as dit que tu me connaissais par mon nom, il dit à Dieu. Hein. Et tu as dit que j'avais trouvé grâce à tes yeux. Hein. Bon, on pourrait le relire, c'est dans le texte, peut-être que ça. Tu as dit tout cela. Alors, si tu as dit tout cela, trouver grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire tu as mes faveurs. Ça veut dire tu vas jouir de mes faveurs. Alors, si tu m'aimes comme tu le dis, Seigneur éternel, hein, eh bien, moi, je pose une condition. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici, hein, ne nous fais pas partir d'ici. Et on verra qu'à nouveau, Dieu accède à sa demande. Non seulement il va pardonner au peuple en acceptant de le conduire lui-même, hein, Dieu dira, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Hein. C'est là, ce sera là une deuxième victoire pour Moïse. Et comme je l'ai dit, hein, bon, on pourrait développer davantage avec l'analyse des pronoms personnels, etc. Mais bon, ce n'est pas le but de faire une analyse littéraire ici. Ce qui est important ici, c'est de voir que Dieu se laisse attendrir. Il se laisse attendrir comme nous pourrions le faire, comme les enfants le font avec les parents, hein, maman, hein, tu dis que tu m'aimes, tout ça, et puis tu veux pas me venir me chercher quand je suis en colo et que je souhaite rentrer à la maison, etc. Par exemple, nos enfants usent hein, de la corde sensible, ils excellent dans l'art de persuader, peut-être plus que dans l'art d'argumenter, encore que. Hein. Nos enfants d'aujourd'hui excellent dans les deux domaines, je crois. Donc voilà ce que Moïse fait. Et il se comporte d'une façon très humaine quand même. Il fait ce que nous faisons. Hein. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Moïse, hein, le grand serviteur céleste de Dieu Saint, ce célèbre personnage. Et puis, on va voir, alors, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est la qualité de relation entre Dieu et Moïse. Une relation aussi intime, en arriver à disputer avec Dieu comme ça. Et j'aime bien ce verbe disputer, parce que on est vraiment dans la controverse, en arriver à parler avec Dieu comme ça, comme s'il était une personne humaine, hein, comme s'il était, comme si nous bataillons avec notre Père pour obtenir quelque chose. Ça veut dire que quand même, entre eux, il y a une grande intimité, il y a une grande relation. Et on voit combien Moïse est grisé, hein, enivré par les deux victoires qu'il vient de remporter. Il se dit, ah mon Dieu, hein, mon Dieu, on sent combien tout l'amour hein, pour son Dieu ressort. Et il va demander encore plus de proximité. Il va lui dire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face. Et on sait qu'à la fin de l'extrait, hein, Dieu va se montrer à lui, mais seulement... Hein, Moïse ne le verra pas, il passera, mais Dieu a fait le maximum dans cette relation d'amour entre Moïse et Dieu. On n'est pas loin d'un langage amoureux finalement, hein, fais-moi voir ta gloire, ça veut dire mais montre-moi ta face, montre-moi ton visage, et on sait très bien, bon, Dieu dira, hein, personne ne peut voir ma face hein, sous peine de mourir, de trouver la mort, mais on va voir hein, C'est vraiment un moment de grande intimité que l'on vient, d'intimité, j'ai pas peur de le dire, d'intimité amoureuse avec Dieu, quoi. Hein. Donc, voilà, bon, je reprends mon texte. Ainsi, par ce récit, nous assistons à un échange qui a conduit non seulement à l'exaucement des deux requêtes de Moïse, mais aussi à un moment de grande intimité entre Dieu et son serviteur. Et par la prière insistante de Moïse, l'Éternel renonce à exterminer le peuple, mais encore il accepte de pardonner le péché d'idolâtrie et de rétablir son alliance rompue avec Israël en marchant à sa tête. Bien, c'est le temps de conclure est venu. On voit bien qu'ici, Moïse s'est comporté en intercesseur hors pair. Il s'est adressé à la part humaine de son Dieu. Et cependant, il sait que son Dieu est grand et redoutable. Cette prière d'intercession pour le peuple, elle peut être un modèle pour nous. Si on s'exprime de façon triviale, on pourrait dire un mode d'emploi, quelque part pour nous. Hein. Moïse a prié pour sauver son peuple. Peut-être que nous pouvons intercéder auprès de Dieu pour un réveil dans notre pays, je ne sais. En tout cas, cette prière d'intercession est un encouragement pour nous, un modèle, hein. C'est un modèle de relation entre Dieu et son serviteur. Une question s'impose quand même. Pourquoi Dieu veut-il que nous intercédions? Si Dieu est omniscient, il savait très bien qu'il n'allait pas détruire le peuple. Alors, c'est tout un débat. J'en ai discuté un petit peu avec Alexis. Hein. Il y a ceux qui pensent que Dieu savait et ceux qui pensent que Dieu ne savait pas. Hein. Mais moi, je crois que Dieu savait puisque Dieu est omniscient. Et pourquoi Dieu veut-il que nous intercédions comme cela? Parce que tous les arguments de Moïse, ils sont vraiment imparables. Moïse a raison. Ce ne serait pas glorieux pour Dieu de détruire son peuple dans le désert. Évidemment, je n'ai pas vraiment de réponse, mais la seule chose que j'ai pu comprendre en travaillant sur cet texte-là, c'est que Dieu va avoir une relation vivante avec nous et qu'il se fait homme de temps à autre, il descend, il se met à notre niveau. Et il veut vraiment que nous ayons ces moments d'intimité. Quand nous intercédons pour les uns, pour les autres, pour nous, nous sommes des serviteurs fidèles, mais aussi des serviteurs inutiles, ne l'oublions pas. Hein. Ce que Moïse a fait, c'était certes nécessaire, mais ce qui est nécessaire, c'est ce modèle, cette relation exemplaire avec son Dieu, hein, qui nous donne en modèle. Voilà, je vous remercie de votre attention.